Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture après ce déconfinement. Une émission préparée ce matin par Margot Loridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Audrey Guélil. Deuxième temps de notre série de déconfinement pour Culture Monde au cours de laquelle nous nous intéressons aux conséquences géopolitiques de la crise du coronavirus. Après avoir évoqué hier les difficultés rencontrées par l'Union européenne et avant de nous interroger demain sur l'avenir du multilatéralisme et puis jeudi sur l'impact de la pandémie sur les conflits armés, on se tourne ce matin vers le pays d'où tout est parti, la Chine.
Ce carton, on va l'envoyer pour la France, à Mulhouse. Celui-ci part à Paris. Lui, c'est pour l'Italie. Et là-bas, c'est pour l'Espagne. Maintenant, en Europe, l'épidémie est très grave, donc c'est normal de les aider. J'ai entendu dire qu'à l'étranger, les gens cherchent tous des masques. C'est devenu comme un trésor pour eux.
La Chine fait de nos mieux pour produire et fournir des fournitures médicales au monde, aux pays qui en ont besoin. Donc nous pensons que c'est notre obligation, parce que quand la Chine était en difficulté, des pays étrangers nous ont fourni aussi des aides et assistances. Maintenant, c'est à nous de renvoyer l'ascenseur.
Cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Lu Shai, l'ambassadeur de Chine en France. Et puis on entendait également quelques voix qui montraient cette bienveillance chinoise à l'égard du monde en envoyant quelques masques ça et là. Dans Le problème à trois corps, un roman de science-fiction de l'écrivain chinois Liu Cixin, la Chine crée une menace existentielle pour l'humanité, puis la résout, rappelle l'historien britannique Niall Ferguson dans un article récent du Sunday Times, une intrigue qui évoque furieusement la situation actuelle où l'on voit Pékin, accusé d'être à l'origine de la pandémie, se présenter en sauveur du monde à travers notamment sa diplomatie du masque. Force est de constater que jamais la Chine communiste n'a aussi frontalement assumé ses ambitions de puissance. En effet, 40 ans après la politique du profil bas édictée par Deng Xiaoping, et alors que le président Xi Jinping assurait encore il y a à peine plus d'un an que son pays ne chercherait jamais l'hégémonie, Pékin semble désormais prêt à assumer sa place de leader et une nouvelle génération de diplomates émerge pour porter ce discours offensif de promotion du modèle chinois. Mais ce modèle chinois peut-il vraiment s'imposer ? La perspective d'une hégémonie chinoise est-elle vraiment réaliste ? La crise mondiale du Covid-19 offre-t-elle à Pékin une opportunité pour se lancer à l'assaut du rival états-unien plus que jamais sur le repli ? Et puis jusqu'où la Chine peut-elle exercer son influence dans le monde ? Son modèle économique, social, politique est-il suffisamment résilient pour traverser sans heurts la période difficile qui s'annonce ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin deux invités. Alice Ekman d'abord. Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Et puis vous aviez écrit récemment un ouvrage sur la Chine, Rouge vif, l'idéal communiste chinois, aux éditions de l'Observatoire. Avec nous également Antoine Bondaz. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aussi. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po. On va commencer peut-être avec cette diplomatie du masque qu'on a un peu engagée dans cet extrait sonore que vous avez entendu, puisque ces derniers jours, il y a un certain nombre de pays qui se sont plaints précisément de la mauvaise qualité des masques qui ont été envoyés. La Turquie, la République tchèque, le Canada, les Pays-Bas, récemment c'est la Finlande, qui a expliqué que les quelques 2 millions de masques importés de Chine n'étaient en réalité pas du tout adaptés à une utilisation en hôpital. Il y a d'autres pays qui ont même renvoyé des masques, je pense à l'Espagne. Est-ce qu'il faut acter le fait, Alice Ekman, que eh bien, cette diplomatie du masque est un échec, en tout cas n'est pas le succès qu'avait espéré Pékin, ou est-ce qu'il faut peut-être un peu nuancer les choses et finalement l'échec dont tout le monde parle ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines n'est peut-être pas aussi total qu'on le pense, Alice Ekman ?
Oui, c'est un semi-échec. Il y a en effet certains pays qui regrettent la qualité des masques. Il existe également un nombre croissant de pays, y compris européens, qui sont agacés par la communication officielle chinoise autour de l'assistance, en fait. Ce n'est pas uniquement la question de la qualité, mais c'est finalement la promotion d'une Chine qui viendrait en aide à un nombre croissant de pays au moment où l'Europe, finalement, ne serait pas en mesure d'assurer cette aide. Et c'est le contraste en termes de communication, où la Chine a massivement communiqué sur l'assistance logistique et médicale, alors que l'Union européenne, par exemple, quand elle avait envoyé des masques en Chine au début de la crise, avait beaucoup moins communiqué, notamment à la demande de la Chine. En tout cas, il y avait une asymétrie en termes de présentation de cette assistance. Et c'est vraiment cet agacement qui est observé aujourd'hui, mais il n'est pas partagé partout. Et c'est là que la nuance doit être introduite. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays, dont ceux que vous avez mentionnés en Europe, sont agacés pour différentes raisons par l'assistance chinoise, mais d'autres s'en réjouissent et communiquent en termes élogieux sur la façon dont la Chine a géré cette crise dans son pays et à l'étranger. Je pense par exemple à la Serbie, je pense au Pakistan, je pense dans une certaine mesure à la Russie. Et donc cette nuance est importante à souligner parce que clairement aujourd'hui il y a un retour de bâton, on pourrait dire, avec un agacement à la fois sur la question des masques, mais aussi sur la communication officielle chinoise telle que promue par le corps diplomatique. C'est vrai que la communication sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet des ambassades est plus offensif, n'hésitant pas à souligner les faiblesses de certains pays européens, n'hésitant pas à comparer les chiffres, n'hésitant pas à finalement vanter encore une fois un système chinois qui serait plus efficace qu'un autre. Et cette compétition existe déjà bien avant la crise. La compétition de système de gouvernance existait, mais elle a été révélée, on va dire, au grand public à l'occasion de cette crise.
Antoine Bondaz, votre regard sur cette diplomatie du masque, est-ce que c'est un échec total, semi-échec, voire un succès? Et dans le cas où on peut considérer aussi que c'est une forme de succès, où est-ce que précisément il vous semble qu'il y a des retombées à attendre? Parce qu'on imagine qu'il y a évidemment derrière la volonté du côté de Pékin de renforcer des liens économiques, d'ouvrir peut-être une nouvelle ère de coopération avec un certain nombre de pays. Où est-ce que, au fond, où est-ce que ça pourrait arriver, Antoine Bondaz?
Pour rebondir sur l'émission d'hier, je pense que là où la Chine a marqué des points, c'est dans la réactivité. Elle a très rapidement apporté son aide, notamment à l'Italie, à un moment où la France et l'Allemagne étaient, et plus largement l'Union européenne, étaient absentes. Et donc, dans les premiers jours de l'épidémie, notamment en Europe, elle a très clairement marqué des points. Vous en parliez encore une fois hier. Les perceptions vis-à-vis de la Chine se sont améliorées dans ce pays. En tout cas, c'est les sondages dont on dispose pour l'instant.
Donc, avec cet élément, pardon, je fais une toute petite parenthèse, avec cet élément qui était très important qu'expliquait Giuliano D'Ampoli, c'est que il y a une très grande importance de la première réaction et de la première impression. La force de la première impression, ce sur quoi insistait Giuliano D'Ampoli, va forcément marquer les Italiens. Je vous laisse poursuivre, Antoine Bondaz.
Exactement, et ce qui fait que tout le monde parle des masques qui ont été offerts par la Chine à l'Italie, et on parle beaucoup moins des masques offerts par la France et l'Allemagne, même si l'Élysée s'est empressé après de souligner que, par exemple, les dons franco-allemands étaient plus importants que les dons chinois. Donc ça, c'est un premier point sur lequel la Chine a vraiment marqué des points. Et après, il y a une inquiétude. En Chine, il faut faire premièrement la différence fondamentale entre les dons de masques et les exportations de masques. Les dons représentent une infime partie des exportations de masques chinois. Pour vous donner juste un exemple, la Chine a offert 1 million de masques à la France. La France annonce en avoir importé plus de 2 milliards, en tout cas en avoir commandé 2 milliards. Et là, l'inquiétude de la Chine, qui porte notamment sur la qualité des masques, c'est de s'assurer que, à travers quelques exemples de masques défectueux ou de commandes qui auraient été non respectées, cela ne jette le discrédit plus large sur la production chinoise d'équipements de production et même au-delà. Et ça, c'est une vraie inquiétude qui a poussé les autorités chinoises à prendre des mesures de régulation encore plus fortes que d'habitude. Pour vous donner juste un exemple, d'habitude, quand vous exportez un masque de Chine, vous avez besoin de l'homologation européenne pour les exporter vers le marché européen. Désormais, vous avez besoin également d'une autorisation chinoise de conformité avec les normes, etc. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important pour les autorités de Pékin, c'est de s'assurer que ces cas isolés ne jettent pas le discrédit sur l'ensemble de la production chinoise. Pour revenir à votre question initiale, vraiment sur là où la Chine peut marquer des points, déjà, il faut bien comprendre que cette diplomatie du masque, qui n'est qu'une diplomatie parmi d'autres, s'inscrit vraiment dans une stratégie bien plus ancienne chinoise de diplomatie sanitaire qui commence dès les années 60 avec l'envoi, par exemple, de médecins en Algérie. Et ça, c'était en 1963. Et donc, à travers cette diplomatie du masque, la Chine, en réalité, ne crée pas de nouveaux outils. Elle mobilise des outils existants qu'on a souvent peu étudiés ou trop peu étudiés, dont on n'avait pas forcément conscience et qui, aujourd'hui, sont tous activés encore une fois, pour essayer d'améliorer l'image de la Chine à l'étranger. Mais comme l'a dit Alice, évidemment, il y a des ratés, notamment en termes de communication pure.
Alice Ekman, et puis ensuite, on passera aux États-Unis, mais on va les laisser de côté pour le moment, parce que c'est évidemment un point très important, mais pour rester sur les pays, les zones sur lesquelles on peut peut-être attendre un accroissement de l'influence chinoise. On dit beaucoup, Alice Ekman, on a beaucoup répété ces dernières années que la Chine avait considérablement accru son influence du côté du continent africain. Est-ce que là, la crise de la Covid peut ouvrir encore une nouvelle ère et peut-être en tout cas renforcer encore ces coopérations qui existent avec le continent africain? Et l'autre zone à laquelle on pense peut-être, c'est le Moyen-Orient. On dit aussi depuis des années combien les Occidentaux, les Américains, les Européens se sont désengagés de ce Moyen-Orient. Est-ce que cette crise pourrait être une opportunité pour Pékin pour poser là des pions? Alice Ekman.
Oui, toujours avec nuance, parce qu'au sein d'une même région, il peut y avoir différentes perceptions en fonction aussi de l'histoire du pays avec la Chine. Par exemple, si on regarde au Maghreb, l'Algérie a bien sûr des relations traditionnelles avec la Chine et un rapport plus proche qu'entre le Maroc et la Chine ou la Tunisie. La Chine, pour donner un exemple, mais ce qui est intéressant de noter dans la crise actuelle, c'est que cette assistance n'est pas que médicale et logistique, elle est aussi technologique, y compris dans les régions que vous avez citées. Pour donner quelques exemples, la Chine a donné des équipements de vidéoconférence au gouvernement kényan, par exemple, comme aussi au gouvernement pakistanais, au ministère de la Santé nationale. L'entreprise de vidéosurveillance Dahua chinoise a offert des caméras thermiques qui sont capables donc d'évaluer la température de la population filmée. Ce sont des caméras aussi soutenues par l'intelligence artificielle. Des dons ont été effectués au Liban, aussi en Thaïlande.
À l'Égypte également, hein, il y a eu un envoi d'assistance médicale au Caire.
Voilà, il y a l'assistance médicale, mais il y a aussi l'assistance technologique. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a peut-être moins parlé, mais c'est peut-être celle qui laissera le plus de traces ou le plus d'infrastructures, le plus de services et le plus même de formation. Ouais. Parce que dans certains pays, il y a un besoin réel de ces équipements technologiques. Et même dans des pays qui ont déjà des équipements qui sont plus avancés technologiquement, il y a aussi des ventes de drones, par exemple, de la compagnie DJI, qui est un des leaders chinois du mondial du secteur, qui est une entreprise chinoise, qui ont été données à certaines municipalités, par exemple en Espagne, en Italie ou en Asie, aux Philippines. Oui. Donc tous ces exemples pour dire que il y a à la fois la perception, par exemple par rapport au masque, la qualité ou la communication officielle autour de cette qualité, et puis il y a aussi des besoins et aussi une présence chinoise en matière technologique préexistante dans certains pays où Huawei est déjà existant. Le développement d'outils Huawei est naturel et facilité, et donc on a tendance à considérer comme acquis l'état du débat en Europe, qui est réel, précis autour, par exemple, de la 5G, mais la nature du débat n'est pas du tout la même dans certains autres pays, en fonction de leurs liens préexistants avec certaines entreprises chinoises, en fonction de l'état d'avancement de leur architecture technologique. Ouais. Et donc, d'assistance médicale, on passe progressivement d'assistance technologique dans certains pays, mais aussi on pourrait aussi passer par une assistance économique et financière, toute proportion gardée selon les besoins de chacun, et enfin bien sûr, cela dépendra de la rapidité à laquelle chaque pays, comparativement, se remettra de la crise, d'un point de vue strictement économique, je parle.
Allez, on va en venir, si vous le voulez bien, à l'affrontement avec les États-Unis. D'abord, on va écouter peut-être un petit extrait sonore, parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour de l'apparition du virus, avec notamment cette hypothèse selon laquelle il se serait échappé d'un laboratoire de Wuhan, et c'est une thèse qui a d'ailleurs été soutenue du côté de la Maison-Blanche.
Nous n'avons pas de certitude, mais il y a des preuves significatives que cela vient du laboratoire de Wuhan. Ces déclarations sont toutes les deux vraies. Je les ai faites, les hauts responsables de l'administration les ont faites, elles sont toutes vraies.
Monsieur Pompeo s'est exprimé à plusieurs reprises, mais il ne peut présenter aucune preuve. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a aucune. Je pense donc que cette affaire devrait être confiée aux scientifiques et aux professionnels de la santé, plutôt qu'à des politiciens qui mentent pour des raisons de politique intérieure.
Voilà, on entendait d'abord Mike Pompeo et puis une responsable chinoise du ministère des Affaires étrangères. Avant de voir ce que cette crise sanitaire pourrait changer dans la nature et dans l'ampleur de cet affrontement entre la Chine et les États-Unis, Antoine Bondaz, qu'est-ce qu'il faut penser de cette thèse de l'origine du virus ?
Alors, elle est compliquée. La thèse, notamment sur le P4, est évoquée dès la fin du mois de janvier dans la presse américaine. Elle est redevenue, entre guillemets, populaire à peu près au milieu et à la fin du mois d'avril. Pour l'instant, aucun élément ne permet d'indiquer qu'il y aurait une fuite accidentelle d'un coronavirus du P4 de Wuhan, et pour de nombreuses raisons, et notamment pour une raison simple, c'est que on ne met pas de coronavirus de chauve-souris dans un P4, et que s'il y a une fuite, elle pourrait venir peut-être d'un autre laboratoire. C'est pour cela que les yeux, en tout cas les regards, se sont aussi braqués sur un autre laboratoire, qui est beaucoup plus proche d'ailleurs du marché de Huanan, dont est parti apparemment, cas selon les informations dont on dispose pour l'instant, l'épidémie, puisque vous avez à peu près à 300 mètres de ce marché au centre de Wuhan, un laboratoire de niveau P2, donc avec des niveaux de sécurité bien moindres. Et dans ce laboratoire, qui est ce qu'on appelle le Wuhan Center for Disease Control and Prevention, vous avez des chercheurs, notamment un qui se spécialise sur les tiques, mais aussi sur les chauves-souris. Il avait notamment été médiatisé à la fin de l'année, et il racontait comment, par exemple, il risquait de se faire infecter lorsqu'il allait récupérer des chauves-souris dans les caves, que ce soit dans le Henan, ou que ce soit dans le Yunnan, notamment dans une autre province. Donc cette thèse, elle a émergé, elle est utilisée évidemment à des fins politiques, il faut être très clair là-dessus, des deux côtés, à la fois du côté chinois et du côté américain. Du côté chinois, l'objectif, il est clair, c'est non seulement de minimiser les responsabilités, de rejeter les responsabilités, mais aussi d'instiller le doute. Et vous avez vu se multiplier depuis ces dernières semaines des rumeurs propagées, y compris par des diplomates chinois, sur une potentielle origine américaine du virus, sur un accident qui s'est déroulé dans un P4 américain à Fort Detrick, etc. Et donc, avec cette idée qu'en réalité les Américains cacheraient quelque chose, que si les Américains veulent enquêter en Chine, c'est qu'en réalité ils ont des choses à cacher, etc. Et donc, vous avez ce jeu entre les États-Unis et la Chine qui, malheureusement, a aussi et s'exprime aussi à travers de la désinformation. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau du point de vue européen, c'est qu'on voit des diplomates chinois volontairement et
anti-chinois, Alice Ekman, il a l'air de préoccuper beaucoup Pékin. Il y a quelques jours, l'agence de presse Reuters a révélé l'existence d'un rapport secret qui a été produit par un institut de recherche sur les relations internationales, qui aurait été présenté à l'exécutif chinois sur le risque de confrontation avec les États-Unis. Et il y a une comparaison qui est faite entre l'après-Covid et l'après Tiananmen, lorsque les massacres de manifestants sur la place de Pékin avaient conduit d'abord à des sanctions économiques, bien sûr, mais aussi à une longue période d'isolement et un sentiment anti-chinois qui avait beaucoup préoccupé, embêté, si je puis dire, les autorités chinoises. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette allusion qui est absolument explosive dans la rhétorique chinoise à Tiananmen ? Comment Pékin compte répondre aussi à ce sentiment anti-chinois ? Et est-ce que cette crise du Covid pourrait faire basculer Washington et Pékin dans une nouvelle ère d'affrontement qui était déjà bel et bien en place. Mais est-ce que ça pourrait encore changer la donne, Alice Ekman?
Oui, ça pourrait encore changer la donne parce que déjà avant la crise, les tensions étaient profondes et rudes entre Washington et Pékin. Vous vous souvenez des tensions bien sûr commerciales qui sont toujours en cours, même si un accord dit de phase 1, un pré-accord avait été signé avant la crise. Il a été en partie mis en application pendant la crise, mais il y a aussi des tensions technologiques très fortes qui étaient autour de Huawei, mais pas uniquement, autour d'autres entreprises chinoises considérées comme posant des problèmes de sécurité par l'administration américaine. Et puis, il y a un risque réel de tensions juridiques qui émergent. C'est-à-dire que pourquoi la Chine aussi s'inquiète de ce sentiment anti-chinois, c'est pas uniquement pour une question d'image, même si c'est très important pour Pékin, c'est aussi parce que ce sentiment peut se traduire aussi en action, notamment en action de justice. Il y a plusieurs individus, plusieurs entreprises qui tentent aujourd'hui d'attaquer la Chine devant les tribunaux. Il y a aussi des États aux États-Unis, comme l'État du Missouri. Alors, il y a un questionnement sur la viabilité de ces actions, parce que les plaintes ne sont pas toujours recevables, d'autant qu'il ne faut pas céder aux théories conspirationnistes et penser que la Chine aurait créé volontairement ce virus. Et il y a en tout cas une volonté de faire payer la Chine pour les dommages générés par cette crise. Et c'est vrai qu'il y a un agacement réel qu'il ne faut pas sous-estimer, pas uniquement au sein de certains gouvernements, mais au sein de la population, tout simplement, compte tenu des conséquences mondiales, économiques, humaines, bien sûr, de la crise. Donc, il y a un risque réel que ces tensions deviennent de plus en plus juridiques et qui s'ajoutent déjà à un millefeuille de tensions déjà bien fournies. Pour revenir sur les tensions technologiques, parce que c'est quand même un point très important, à mon avis, elles vont se renforcer. Pas uniquement pour les éléments mentionnés précédemment, c'est-à-dire dus au fait de dons ou de ventes d'équipements dans le contexte de la crise, parce que finalement, ils sont relativement limités aujourd'hui, même si ces dons pourraient mener ensuite à une utilisation des technologies données pour d'autres usages, tels que la surveillance, mais aussi parce que le plan de relance pré-annoncé par la Chine à partir de fin mars, c'est-à-dire faire pour relancer l'économie face au ralentissement lié à la Covid-19. Ce plan de relance met l'accent vraiment sur les technologies. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, en 2008-2009, suite à la crise économique et financière mondiale, la Chine a mis en place un plan de relance qui passait par des investissements dans les infrastructures de transport dites traditionnelles, les ponts, les autoroutes, les routes, etc. Et plus tard, il y a eu une extension avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir d'un développement de ces infrastructures au-delà du territoire chinois, par notamment le biais des nouvelles routes de la soie. Mais aujourd'hui, maintenant, le plan de relance passe par des investissements dans les nouvelles technologies. Alors, explicitement sont listés dans ce pré-plan, la 5G, data center, l'Internet des objets, l'Internet industriel, la technologie dite blockchain. Donc la Chine va mettre les bouchées doubles dans ses investissements de technologie sur son territoire, dans les technologies citées, mais aussi, plus que jamais, va tenter de se positionner comme fournisseur, leader mondial dans ces technologies. Et là, ça pose réellement un problème à Washington, hein, parce que cela posait déjà un problème sur la 5G, mais ça pose un double problème en termes de compétition, de compétitivité, mais aussi en termes d'accès aux données, de protection des données, de supervision et de gestion d'un flux de données qui est central, pas uniquement pour des raisons de sécurité, mais aussi qui est un avantage commercial pour les entreprises. Et donc ça, vraiment, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette confrontation. À cette confrontation commerciale, technologique, potentiellement juridique, ça ajoute bien sûr habituellement les tensions conceptuelles idéologiques qui sont toujours là, puisque Xi Jinping avait déjà dit en janvier 2013, nous devons construire un socialisme qui est supérieur au capitalisme et poser les bases d'un avenir où nous gagnerons cette initiative et occuperons la position dominante. Aujourd'hui, la crise de la Covid-19, si c'est au féminin, ne remet pas en cause cette forte volonté politique. En tout cas, cette remise en cause ne transparaît nullement dans la communication officielle chinoise qui met en avant la nécessité d'avoir confiance dans son propre système de développement et dans son propre modèle, non seulement au sein de ses frontières, mais à l'étranger.
Antoine Bondaz, peut-être un mot sur justement la transformation de cette confrontation, peut-être jusqu'où pourrait-elle aller cette confrontation entre la Chine et les États-Unis. Le rapport que j'évoquais tout à l'heure évoque même la nécessité pour Pékin de se préparer à une confrontation armée. Est-ce que vraiment c'est à cela qu'il faut s'attendre? Et puis pour poursuivre un peu, pour aller plus en avant là-dedans, il y a évidemment la question du modèle chinois lui-même, il y a la question de la conjoncture aussi qui va être compliquée aussi pour la Chine et qui peut-être va empêcher, j'allais dire, la Chine de poursuivre le chemin de l'hégémonie qu'elle vise. Il faut peut-être regarder aussi ce que seront les conséquences économiques et sociales peut-être de cette crise sur Pékin et de regarder jusqu'où est-ce que ça pourrait affaiblir justement ce modèle. Mais d'abord sur le premier volet, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que pourrait aller cette confrontation entre les États-Unis et la Chine, selon vous?
Alors, les tensions, elles sont structurelles, elles sont multifactorielles, comme le rappelait très bien Alice, et elles ne vont cesser de croître pour deux raisons. Vous êtes dans un contexte d'élection présidentielle. Or, vous avez un consensus bipartisan pour considérer la Chine de plus en plus comme une menace. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle les chercheurs chinois travaillent depuis déjà des années. C'est notamment ce fameux concept de la théorie de la menace chinoise, où vous auriez un Occident qui chercherait à empêcher le développement économique de la Chine et à limiter son influence à l'étranger. Or, depuis quelques années, vous avez la multiplication de rapports officiels ou non, qui considère que cette menace chinoise, cette théorie de la menace chinoise, elle se renforce, elle se propage et elle se crédibilise à l'étranger. Et donc la Chine doit, en réaction, chercher à influencer les opinions publiques, mais aussi les élites à l'étranger. Et là, vous avez tout un tas de recommandations qui sont mises sur la table. Ça passe par l'utilisation des réseaux sociaux, par l'influence directe des hommes politiques et autres.
Cette contre-offensive, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été largement accélérée, voire initiée par Xi Jinping?
Oui, on peut le dire. Alors, elle prédate de Xi Jinping, mais elle s'est considérablement renforcée ces dernières années, notamment suite à un discours clé de Xi Jinping qui, en août 2013, appelait, je cite, à mieux raconter l'histoire de la Chine et à mieux faire entendre la voix de la Chine. L'objectif, il était clair, c'est il faut façonner les perceptions internationales de la Chine, chercher à rassurer afin d'éviter qu'il y ait en quelque sorte un front uni contre la Chine. Donc ça, c'est une inquiétude ancienne à Pékin. L'autre problème à Pékin ces dernières semaines, c'est que les autorités chinoises ont beaucoup misé ces derniers mois sur le nationalisme. Premièrement, dans une première étape, entre guillemets, pour légitimer le parti dans la crise sanitaire en Chine, pour mettre en scène l'idée que le parti aurait parfaitement géré, et notamment le niveau central aurait parfaitement géré la crise sanitaire, et puis dans un second temps, pour chercher à discréditer les pays étrangers et principalement les États-Unis. Le problème, quand vous alimentez ce nationalisme, c'est que parfois il peut vous échapper et parfois il rend des incidents, la gestion d'incidents beaucoup plus compliquée. Faut pas oublier que vous avez régulièrement des incidents militaires entre les États-Unis et la Chine. En 2001, par exemple, un avion de reconnaissance américain avait percuté un avion de chasse chinois. En 2009, un incident maritime où vous aviez eu un risque de collision entre deux navires américains et chinois. Et là, le risque, c'est que s'il y a aujourd'hui un incident militaire, comment est-ce que les deux pays peuvent gérer l'escalade alors que, entre guillemets, le nationalisme a été beaucoup alimenté? Et puis, pour revenir sur votre deuxième question, qui était sur l'hégémonie chinoise, etc., je pense que les autorités chinoises, même si elles montrent une certaine arrogance, une certaine hubris, elles sont tout de même prudentes. Elles ont parfaitement conscience que l'hégémonie, ça repose sur deux choses. Ça repose sur des capacités matérielles et ça repose sur des capacités d'entraînement, notamment au sein de la communauté internationale. Et là, on peut remonter au concept même d'hégémonie qui vient du grec hégémon, quand une cité grecque pouvait mener d'autres cités. Or, la Chine, aujourd'hui, sur le plan matériel, elle reste encore derrière les États-Unis, même si les États-Unis sont en crise. Et deuxièmement, la Chine a encore aujourd'hui de grands problèmes pour créer, par exemple, des coalitions internationales. Alors, elle y arrive quand c'est pour faire élire, par exemple, un représentant chinois à l'organisation, au programme alimentaire mondial et autres. Mais elle a beaucoup plus de mal à mobiliser un soutien sur le plan multilatéral, comme pourraient le faire les États-Unis, même pendant la présidence de Donald Trump, où pourrait le faire l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui manque à la Chine, et les Chinois en ont parfaitement conscience. Et pour conclure, vous avez un concept chinois ancien qui avait été développé dès les années 80, les années 90. C'était le concept de puissance nationale complète. L'idée était comment est-ce qu'on peut classer les pays les uns par rapport aux autres. Et c'était un concept multifactoriel qui avait des éléments concrets, capacitaire, mais aussi des éléments d'influence, des éléments de prestige, des éléments de solidité du modèle politique. Et là, les Chinois ont parfaitement conscience, et les élites chinoises ont parfaitement conscience qu'elles ne peuvent, pour l'instant, pas encore prétendre, entre guillemets, à l'hégémonie qu'ils critiquent des États-Unis. Et en quelque sorte, ces derniers jours et ces dernières semaines, cet excès d'arrogance chinois masque peut-être plus des faiblesses du système et les craintes inhérentes à Pékin que la certitude de pouvoir dépasser les États-Unis.
Et d'ailleurs, justement, ce terme d'hégémonie du côté des autorités chinoises, on le rejette. Écoutez ce que disait Xi Jinping, c'était en décembre 2018.
La Chine poursuit une politique de défense nationale de nature défensive. Le développement de la Chine ne constitue une menace pour aucun pays. Quel que soit le niveau de développement atteint, la Chine ne recherchera jamais l'hégémonie.
Voilà, donc l'hégémonie, en tout cas officiellement, elle n'est pas assumée du côté des autorités chinoises. Alice Ekman, pour poursuivre un peu sur le volet intérieur et regarder peut-être les faiblesses de ce modèle chinois. Je le disais tout à l'heure, évidemment, les conséquences économiques et sociales, elles vont être très importantes pour tout le monde. Et Pékin va pas échapper à la règle, elle va être elle aussi touchée. Il y a déjà un certain nombre d'évaluations sur la récession, il y a déjà quelques chiffres qui sortent sur le chômage possible du côté de la Chine, sachant que, comme à chaque fois avec la Chine, il faut faire attention sur les chiffres, mais on se doute qu'évidemment, il va y avoir des conséquences. Jusqu'où est-ce qu'on peut imaginer que ces conséquences vont influer sur ce modèle chinois, sur le système chinois? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, les autorités de Pékin soient contraintes d'engager un certain nombre d'évolutions, de réajustements? Difficile de penser que le système va changer, donc parlons plutôt d'évolution et de réajustement pour justement s'adapter à cette conjoncture qui va être de toute façon particulièrement mauvaise, Alex Ekman.
Oui, une chose est sûre, aujourd'hui, le Parti communiste chinois n'est pas dans l'introspection, n'est pas dans la remise en cause, et le parti reste solide. Des questionnements avaient émergé au début de la crise sur la solidité du système politique chinois. De mon point de vue, la crise a montré que plus que jamais, le maillage géographique du parti était très étendu, très dense, avec les comités de résidents présents, omniprésents, notamment pour valider et regarder les entrées et les sorties des bâtiments, avec la création même de cellules du parti au sein d'hôpitaux temporaires créés à Wuhan, avec une communication glorifiant le parti. Alors ça, c'est le positionnement officiel. La question, c'est les faiblesses. Je veux dire, ce qu'il faut toujours nuancer, c'est-à-dire que certes, le maillage géographique du parti est très dense, et le parti s'est doté à la fois de moyens de surveillance humains et technologiques à son service, et ses moyens sont conséquents, donc de mon point de vue il reste fort, solide et bien doté. En même temps, bien sûr, le pays fait face à des faiblesses certaines. Moi, je vois au moins deux sources de faiblesses principales. Bien sûr, l'économie, la reprise économique n'est pas encore au rendez-vous parce que l'économie chinoise dépend encore fortement des exportations et notamment de la demande des marchés européens et américains. Et donc, l'interdépendance économique reste forte. Et même si le ralentissement avant la crise était finalement modéré par rapport à d'autres pays, c'est vrai qu'il est ressenti par la population, une population qui était habituée à une croissance à deux chiffres pendant près de deux décennies. Donc il y a réellement ce ralentissement économique à suivre. Et puis la deuxième faiblesse, point de faiblesse, ce n'est pas le seul, mais qui à mon avis doit être souligné, c'est la peur. Clairement, la peur au sein du parti qui est observée à différents niveaux, mais aussi à haut niveau. On parle souvent, bien sûr, des commentaires et de ressentiments vis-à-vis du système sommes à l'extérieur du parti, mais à l'intérieur du parti, certains cadres ont gros sur la patate, si je puisse me permettre de parler ainsi, c'est-à-dire que après des campagnes de recadrage politique et idéologique à répétition depuis 7 ans, certains, oui, clairement, en ont marre d'avoir peur d'être mis sous enquête, d'être dénoncé par des camarades, d'assister à des séances de critique et d'autocritique, de participer à des mouvements pour rester fidèle à notre mission initiale telle que le jargon officiel l'indique, c'est-à-dire de réviser les paroles et les discours de Xi Jinping mot à mot. Si je souligne cet exemple, c'est parce que cette peur a des conséquences, pas uniquement individuelles, mais aussi sur le fonctionnement du système. C'est-à-dire que beaucoup de cadres du parti hésitent ou ne préfèrent ne pas prendre l'initiative qui pourrait être mal perçue par le gouvernement central dans ce contexte. C'est-à-dire que la peur est telle dans certaines institutions qu'elle amène à une certaine forme d'immobilisme. Alors certes, il existe toujours une forte volonté politique de promouvoir des initiatives, à la fois technologiques, institutionnelles, diplomatiques, etc. Mais parfois, on entend au niveau inférieur, finalement, toujours les mêmes éléments de langage, toujours des paroles qui peuvent apparaître de plus en plus creuses dans un contexte de peur croissante.
Antoine Bondaz, sur peut-être les difficultés du moment et peut-être une forme de fragilisation aussi de Xi Jinping au sein du parti, parce qu'on a entendu quelques critiques émerger effectivement dans la société civile et notamment à travers les réseaux sociaux. C'est plus difficile de savoir dans quelle mesure est-ce que Xi Jinping a été fragilisé ou non par cette crise de la Covid.
On a effectivement peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du parti et notamment à Zhongnanrai où l'élite travaille. Ce qui est très important, c'est que fin janvier, début février, il y a quand même eu une période de flottement où la communication officielle du parti était loin d'être parfaite et où on a senti des hésitations, y compris au plus haut niveau et notamment venant de Xi Jinping. Tout cela à partir du 7, du 8 février est revenu dans l'ordre et là vous avez eu une campagne de propagande et de censure massive pour entrer une fois, regagner cette bataille discursive, imposer les éléments de langage du parti et surtout véhiculer l'idée en Chine et à l'étranger de la plus grande stabilité du système politique et de la grande réussite et de l'exemplarité même du système politique chinois et notamment du parti. Je pense qu'il faudrait quand même creuser. Xi Jinping a pu être fragilisé par la gestion de la crise et notamment la gestion post-crise sanitaire en Chine, cette fameuse gestion des relations internationales, et que cela pourrait le fragiliser en amont du congrès, du 20e congrès du parti qui aura lieu en 2022. On est entre guillemets à mi-mandat du second mandat de Xi Jinping. Il y a quelques mois, tout le monde était persuadé que Xi Jinping ferait potentiellement un troisième mandat. Je pense que la question peut se poser et cela va dépendre vraiment de la gestion post-crise de Xi Jinping. Et puis sur l'économie, il y a une vraie crainte aussi en Chine. Hein, on la lit dans les médias, indirectement, on la voit dans les conférences de presse, c'est qu'il y ait une remise en cause des chaînes de production mondiale, des chaînes de valeur et qu'il y ait une relocalisation partielle. Alors évidemment, c'est pas une remise en cause de la mondialisation, mais une relocalisation partielle, notamment dans des industries stratégiques, que ce soit sur le plan sanitaire ou autre. Et là, les discours, que ce soit en France, au niveau de l'Union européenne, se multiplient pour une relocalisation en Europe et dans la périphérie de l'Europe.
Même si cette relocalisation est loin d'être évidente, parce que une chose est de la souhaiter, une autre est de l'appliquer, de la mettre en œuvre. On est avec vous, Antoine Bondaz, et vous, Alice Ekman, autour de cette série consacrée à la géopolitique de l'après-Covid. Nous parlons ce matin de la Chine. On va prendre la direction ce matin, dans un instant, là, de Hong Kong.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Hong Kong, qui compte près de 7 millions, un peu plus de 7 millions d'habitants, où le coronavirus n'a fait que 4 morts. Pourtant, évidemment, ce ne sont pas des solutions de confinement qui ont été retenues, d'où effectivement une impression très forte de réussite de ce modèle hongkongais, pour Pékin en tout cas, qui refuse toujours l'entrée de Taïwan, pour le coup, à l'OMS, et qui peut-être voudrait profiter de cette crise de la Covid pour mettre encore plus la pression sur Hong Kong. C'est le sujet qu'on va aborder tout de suite avec Jean-Pierre Cabestan. Bonjour Jean-Pierre Cabestan, vous êtes avec nous en direct depuis Hong Kong. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous entends très bien.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong, directeur de recherche au CNRS. Alors je sais que la liaison n'est pas parfaite, un petit peu fragile, alors je vais aller droit au but, Jean-Pierre Cabestan. Parce que depuis des mois, on a un bras de fer très fort entre Pékin et puis Hong Kong, avec ces manifestations, on s'en souvient, très importantes contre cette fameuse loi d'extradition vers la Chine qui avait poussé une partie de la population à descendre dans la rue pour défendre son modèle, pour défendre ses libertés. Finalement, ce projet de loi avait été retiré. La question, elle est simple. Est-ce que cette crise de la Covid va changer, change déjà quelque chose dans ce rapport de force? Est-ce que Hong Kong parvient peut-être à se libérer un peu de l'étreinte chinoise, ou est-ce que, au contraire, il semble que cette emprise soit de plus en plus prégnante, Jean-Pierre Cavestan?
Oui, cette emprise est de plus en plus prégnante, mais elle ne date pas de la crise du Covid-19. Hein. Ce resserrement du contrôle de Hong Kong par la Chine, il intervient depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, il est progressif. Avant l'éclatement de la crise sanitaire, Pékin a nommé un nouveau responsable à la tête du bureau de liaison de Pékin à Hong Kong, quelqu'un qui s'appelle Lau Huining, qui est assez proche de Xi Jinping et qui est surtout une personnalité assez senior dans la hiérarchie du parti, avec une mission très simple qui est de resserrer la vis, de faire en sorte que le mouvement de protestation ne reprenne pas après dans les mois qui viennent, et surtout que Hong Kong passe une nouvelle loi de sécurité nationale au terme de l'article 23 de la loi fondamentale de Hong Kong. C'est un projet qui est très ancien et qui a toujours suscité beaucoup d'opposition à Hong Kong, mais que Xi Jinping voudrait faire adopter rapidement. Donc oui.
Mais c'est un pari risqué quand même, Jean-Pierre Cabestan, de la part de Pékin, parce que serrer encore la vis alors qu'on sort tout juste d'une crise absolument majeure, il y a évidemment le risque de relancer le mouvement de protestation.
Bien sûr. Alors le Covid-19 et la crise actuelle peut paraître comme une parenthèse en fait entre le mouvement de protestation de l'année dernière et un mouvement de protestation qui pourrait reprendre et qui a déjà repris ici et là le week-end dernier. À la faveur d'un relâchement des mesures de distanciation sociale. Mais il est clair que Pékin ne veut pas modifier ses objectifs. La vraie question, c'est de savoir pour l'instant si les élections de septembre, législatives de septembre vont avoir lieu. Pour l'instant, la date n'a pas été fixée en raison de la crise sanitaire actuelle, mais elle devrait l'être assez rapidement. Je pense qu'elle devrait se tenir. Mais Pékin a très peur de voir le camp pro-establishment, donc pro-Pékin, perdre la majorité des sièges au Parlement, après surtout la victoire du campement démocrate aux élections locales des district boards en novembre dernier. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième, c'est évidemment ce projet de loi de sécurité nationale qui pourrait, lorsqu'il commence à être discuté, remettre le feu aux poudres.
C'est encore une ambition de la part de Pékin de faire passer cette loi sur la sécurité nationale?
Ah oui, je
pense qu'elle a quand même vu que cette scène fonctionne. Enfin, oui, oui. Ça a provoqué quand même un séisme.
D'abord, ça a provoqué un séisme en 2003, donc il y a maintenant 17 ans. Ouais. Et il est certain que dans le contexte actuel, ce serait évidemment très, très déstabilisateur. Maintenant, on verra un peu le résultat des élections de septembre. Et en fonction de ce résultat, je pense que Pékin devra adapter sa stratégie afin d'éviter de créer plus d'instabilité et surtout de ressentiment à l'égard des autorités centrales sur le territoire de Hong Kong. La volonté de Pékin, on l'a vu à travers l'arrestation de 15 personnalités du campement démocrate le mois dernier, et d'intimider l'opposition, et je dirais de poutiniser le système politique de Hong Kong en prenant le contrôle des différents leviers de contrôle et en s'ingérant de plus en plus directement dans la gestion de la ville et en donnant au bureau de liaison un rôle, si vous voulez, de contrôle derrière Carrie Lam qui est le chef de l'exécutif et les gouvernements qu'il préside.
Alors même que la non-ingérence, c'est un principe fondamental qui est inscrit dans l'article 22 de cette loi fondamentale de Hong Kong, justement.
Oui, bien sûr, mais...
Ça, c'est pour la théorie.
Ça, c'est la théorie, parce que la pratique, c'est de dire qu'en fait, le bureau de liaison est l'héritier du bureau de l'agence chinoise et qui existait bien avant le retour de Hong Kong à la mère patrie, et que donc, à ce titre, ce bureau de liaison n'est pas concerné par l'article 22. Ce qui est assez paradoxal, parce que au peu après la nomination de Lo Wei-ning en février, il y a un nouveau chef du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao qui a été nommé à Pékin, Xia Paolong, qui est un ancien responsable du Zhejiang, également très proche de Xi Jinping, qui lui a tout de suite réorganisé ce bureau des affaires de Hong Kong et de Macao à Pékin et a intégré en fait les responsables de bureaux de liaison à la fois de Hong Kong et de Macao au sein de la direction de ce bureau qui fait partie du gouvernement central à Pékin. Donc l'intégration entre les deux administrations, elle est complète et montre à quel point ce bureau de liaison en fait, est l'expression directe du gouvernement central à Pékin.
Jean-Pierre Cabestan, vous aviez écrit un ouvrage en 2018 chez Gallimard, « Demain la Chine, démocratie ou dictature ?» C'était avec un point d'interrogation. Et vous y souteniez la thèse selon laquelle le développement économique et social de la Chine n'avait pas engendré la démocratisation, je mets le terme entre parenthèses, du régime chinois. Parce que, en réalité, il y a une conviction très forte et très largement partagée au sein de l'élite chinoise, selon laquelle le système actuel est le plus adapté, le plus pertinent. Est-ce que le Covid-19 a ébranlé ou pas votre conviction et surtout peut-être la conviction des élites chinoises? Est-ce que ce régime chinois vous semble aujourd'hui peut-être un peu plus fragile?
Un peu moins solide, je dirais. Effectivement, la conclusion de mon livre, c'est que il y a des éléments de fragilité, de vulnérabilité qui progressivement vont modifier la donne et à terme pourraient favoriser une démocratisation, mais pas avant, d'après mes pronostics, qui sont tout à fait aléatoires, évidemment, en 20 ou 30 ans. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est passé quelque chose en février et mars entre la société civile chinoise et le gouvernement, une perte de confiance, l'impression d'avoir été maintenu dans le noir, d'avoir d'abord informé Pékin, d'abord informé l'OMS et les gouvernements étrangers avant d'informer sa propre population de l'état de l'épidémie. Et donc il y a quand même un ressentiment et une prise de conscience parmi certaines catégories de la population que ce système est trop opaque, et ne sert plus complètement les objectifs que la population voudrait voir remplir. Donc il y a un effritement. Cela étant, je ne pense pas qu'il y ait de remise en cause pour l'instant du système de parti unique. Hein. Il y a eu des contestations, mais les contestataires les plus, si vous voulez, les plus remontés contre le régime sont quand même encore très peu nombreux.
Peut-être une réaction de la part d'Alice Ekman et Antoine Bondaz autour de cette fragilisation, même si on est très très loin d'un changement de régime, évidemment, du côté de Pékin. Mais c'est intéressant de voir peut-être les évolutions à venir. On parle, c'est vrai, beaucoup depuis l'arrivée de Xi Jinping d'une concentration très forte du pouvoir à Pékin, peut-être du jamais vu. En tout cas, c'est la thèse que vous souteniez, Alice Ekman, dans votre ouvrage « Rouge vif, l'idéal communiste chinois ». Est-ce qu'il faut s'attendre encore à plus d'autorité, d'autoritarisme du côté de Pékin? Est-ce qu'il y a encore de la marge pour concentrer encore les pouvoirs, Alice Ekman? Je donnerai une réponse un peu courte pour qu'on puisse ensuite parler de la question ouïghour avec une nouvelle invitée, mais je vous en prie.
De mon point de vue, la détermination de Xi Jinping de poursuivre dans cette voie rouge n'est pas remise en cause. Et certes, il y a des ressentiments que l'on note à différents niveaux, à l'extérieur du parti et à l'intérieur du parti, mais il existe un écart entre ce ressentiment et l'expression de ce ressentiment, notamment dans ce contexte de peur où les risques sont nombreux pour s'exprimer ainsi.
Antoine Bondaz.
Je pense que le risque aussi, en cette période, entre guillemets, de confinement partiel dans d'autres pays, et surtout avec l'affaiblissement des contacts de personne à personne, des voyages internationaux et autres, c'est le risque qu'en Chine, on ait de façon artificielle cette instrumentalisation du nationalisme qui se renforce considérablement et qui rende demain, encore une fois, la gestion des relations sino-américaines, ou plus largement les relations internationales de la Chine, encore plus compliquées qu'avant.
Merci en tout cas à Jean-Pierre Cabestan qui était avec nous en direct depuis Hong Kong. On arrive à faire des prouesses. On jongle grâce à une technique absolument parfaitement huilée maintenant, ça y est, Audrey Gélil jongle entre Hong Kong, les téléphones, les reportites et tout. Merci infiniment à elle et à toutes les équipes de France Culture. Je remercie également Jean-Pierre Cabestan, je rappelle votre ouvrage, c'était « Demain, la Chine, démocratie ou dictature » qui était paru chez Gallimard. On va s'intéresser tout de suite à la question ouïghour.
J'étais épuisée. Ils m'ont emmenée dans une pièce fermée par de lourdes portes métalliques. Elles faisaient beaucoup de bruit quand on les ouvrait. La pièce faisait 20 mètres carrés environ et il n'y avait pas de fenêtre. À l'intérieur, il y avait une quarantaine de femmes et la moitié d'entre elles étaient debout. Les autres étaient allongées au sol les unes contre les autres. On portait toutes de très lourdes chaînes aux pieds. Une fois par semaine, il nous montrait une vidéo sur Xi Jinping. Ensuite, il nous demandait d'écrire notre autocritique. C'était pour s'assurer que nos idées changeaient et s'amélioraient.
Extrait de Chine, Ouïghour, un peuple en danger, un documentaire d'Antoine Védélé et de Angélique Forget qui avait été diffusé sur Arte en mai 2019. Ces dernières semaines, justement, les membres de la diaspora ouïghour d'Europe ont reçu de bien étranges coups de fil, alors qu'il leur est ordinairement impossible de rentrer en contact avec leurs proches restés dans le Xinjiang. Ceux-ci les ont appelés pour la première fois depuis des mois pour leur vanter la victoire chinoise contre le virus, pour critiquer les stratégies occidentales en la matière et pour les inviter à la prudence dans leur pays de résidence. Un discours, on le pense évidemment, probablement largement téléguidé par Pékin, qui s'appuie sur les Ouïghours pour promouvoir sa politique de riposte au virus, tout en profitant du virus pour détourner l'attention internationale des exactions contre cette communauté ostracisée. Bonjour Dilnur Reyhan.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et vous êtes présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Vous êtes d'origine Ouïghour, vous avez aussi reçu des appels de proches ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai plus de chance que les autres Ouïghours, puisqu'en fait, j'ai gardé le contact avec ma famille jusqu'à l'année dernière, et depuis plus d'un an, j'avais plus aucun contact. Et moi aussi, comme étrangement, comme les autres membres de la diaspora, j'ai reçu un coup de fil de la famille qui m'avait pas contacté, qui avait peur d'être en contact avec moi.
Que vous ont-ils dit ?
Au téléphone, qu'elle disait que tout allait bien en Chine et que le gouvernement chinois avait réussi à contrôler le virus, éradiquer le virus, et qu'il s'inquiétait maintenant pour la diaspora ouïghour à l'étranger, puisqu'en fait, en Occident, ils ont entendu que c'était la catastrophe. Mmh. Et donc, enfin, tout en rajoutant, nous avons de projets de revenir, il ne fallait pas faire. Donc.
Sauf que nous, en Occident, Dilnur Reyhan, on s'est beaucoup inquiété, il y a eu beaucoup de craintes s'agissant des dégâts pouvait faire le coronavirus dans les camps d'internement du Xinjiang. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a une idée de la situation ? Est-ce que ce risque d'une crise sanitaire majeure dans les camps d'internement a été écarté ?
Nous n'avons pas d'informations là-dessus, puisqu'en fait, même sur le cas de contamination de la région, nous avons un petit chiffre qui a été communiqué fin février, début mars. La Chine avait communiqué un chiffre de 76 cas contaminés dans la région et 3 morts. Et la région a été mise en quarantaine dès le début avec deux cas de contaminés. Et en ce qui concerne enfin sur la question est-ce que parmi ces contaminés il y a des Ouïghours ou il s'agit uniquement des Chinois, on ne sait pas non plus. Lorsqu'en fait les journalistes américains ils ont interrogé les autorités régionales, la réponse donnée c'était et que la situation du virus dans la région Ouïghour était classée comme secret d'État. Et donc, on a encore moins d'informations concernant l'état dans les camps de concentration.
Il y a quelques mois, Dilnur Reyhan, il y a eu des révélations qui ont été publiées dans le New York Times qui faisaient état d'une vraie politique de nettoyage ethnique menée par Pékin, donc avec une vraie intentionnalité de transformer la population qui vit dans ce Xinjiang et de s'en prendre à cette communauté musulmane turcophone. Est-ce qu'il faut craindre que cette crise du Covid présente une opportunité pour Pékin pour encore accentuer cette pression, cette répression sur les Ouïghours ?
Complètement, oui, tout à fait. D'ailleurs, enfin, depuis, effectivement, avec la fin d'année 2019, avec les plusieurs révélations de du document confidentiel chinois qui a été publié un peu partout dans le monde. La question ouïghour a été devenue une des questions importantes dans les médias. Et ça a duré que très peu de temps, puisqu'en fait, dès début 2020, on ne parle plus du tout de la question ouïghour et du tout des autres questions non plus, puisqu'enfin, la question majeure, c'était dans le monde entier, c'était le virus et ses conséquences, notamment économiques. Donc la question ouïghour a été mise totalement du côté, et pendant tout ce temps-là, donc depuis fin 2019 jusqu'à présent, donc la Chine en a certainement bien profité. Nous avons certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux chinois et occidentaux. Et nous voyons clairement que la répression, enfin le terme répression est extrêmement faible. C'est plutôt en fait la politique fasciste de la Chine envers les Ouïghours, d'éradication de cette population, est à son sommet.
Mais il y a des preuves selon lesquelles cette politique justement s'accroît, parce que on connaît un peu hein, la stratégie des autorités chinoises justement à l'égard de ces Ouïghours. On sait cette politique qui vise à organiser une migration intérieure en faisant venir des populations d'autres régions, et notamment beaucoup de l'ethnie Han, pour justement que les Ouïghours deviennent minoritaires dans cet espace géographique, en leur permettant de trouver facilement un travail, en leur permettant même parfois de trouver un appartement. Donc on favorise justement cette anisation de la Chine, du Xinjiang, pardon. Est-ce que ce mouvement-là s'est accéléré? On en a des preuves, des illustrations, des retours?
Oui, de toute manière, les méthodes chinoises dans l'éradication des Ouïghours est multiple. Donc, d'une part, c'est le repeuplement de la région par la population chinoise, avec une immigration massive qui était déjà le cas, puisqu'enfin, vous savez, enfin, la population ouïghour occupait 80% de la population totale en 1949, qui est tombée en 2010 déjà à 45%, donc c'était la proportion, elle était déjà importante. Ensuite, depuis ces trois dernières années, avec le système de camps de concentration, il y a aussi une partie importante de la population sont détenues dans des camps et dans des prisons, et les familles sont déchirées, et les enfants sont disparus, ou alors une partie des enfants sont internés dans des camps pour les enfants, camps pour enfants, pour les siniser totalement. Et ensuite, une autre partie aussi, enfin, des familles, des foyers ont été séjournés, enfin, occupés par des cadres chinois pour les surveiller, leur intimider, leur vie intime. Ça, c'est déjà enfin le chiffre officiel donné par les autorités chinoises. C'est 1 million de Chinois ont installé dans des maisons ouïghours pour les surveiller. Ensuite, il y a aussi la question, en fait, nous avons vu dernièrement la déportation de un nombre important des ouvriers, des jeunes ouvriers ouïghours vers les usines chinoises pour utiliser comme force gratuite par les entreprises diverses. Au même moment, comme vous venez de souligner, il y a un nombre important d'immigrants chinois encouragés par l'État, avec l'aide de l'État, de venir s'installer dans la région. Ensuite, ils mettent aussi sur Internet de nombreux appels pour appeler les autres Chinois de faire de même en vantant les avantages. Parmi lesquels il y a effectivement l'offre gratuite des appartements, de terres pour des paysans ou encore pour certains des femmes ouïghours.
Merci beaucoup Dinur Rayan pour votre témoignage ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Un grand merci également à nos deux invités. D'abord Antoine Bondaz qui était avec nous, qui est chercheur à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Un grand merci également à Alice Ekman, responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union Européenne. Vous aviez signé Alice Ekman, c'était il y a quelques semaines, Rouge vif, l'idéal communiste chinois. Et puis, j'indique pour nos auditeurs aussi que vous avez réalisé un film, c'est un tout autre sujet, qui est en accès libre et en partenariat avec France Culture, Mathilde et Rosette. On va mettre le lien sur la page de Culture Monde. Merci infiniment à tous les deux. On reprendra notre série consacrée à la géopolitique de l'après-Covid. On parlait aujourd'hui de la Chine, demain on parlera du multilatéralisme. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.